Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Emmanuel Macron se rendra bien à Kiev. Le président va rencontrer demain son homologue ukrainien. C'est une information Europe 1 et sur laquelle nous reviendrons dans un instant. L'affaire Damien Abad parasite la campagne du camp présidentiel entre les deux tours des législatives. Le ministre des Solidarités visé par une nouvelle accusation de tentative de viol. Elisabeth Borne interpellée par une femme aujourd'hui dans le Calvados. Vous entendrez cet échange tendu avec la première ministre. La première canicule de l'année avant même l'arrivée de l'été. 23 départements en vigilance orange. Point météo complet à la fin de ce journal. On va vous emmener aussi à la rencontre des Bordelais qui ont lutté toute la journée contre la chaleur. Et puis, nouvelle ruée sur les ventilateurs. Les Français s'équipent pour la maison et pour le travail. Notre invité politique à 4 jours des législatives du second tour, Éléonore Baize, candidate Rassemblement National dans les Bouches-du-Rhône. Et puis, juste avant la libre antenne, on découvrira les unes des quotidiens pour demain matin.
Europe 1.
Nous vous l'avons annoncé dès 19h sur Europe 1. Le déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine est confirmé. Le chef de l'État va conclure sa tournée diplomatique en Europe de l'Est avec une étape marquante. Selon nos informations, il se rend demain à Kiev, la capitale de l'Ukraine en guerre, Jacques Sauret.
Oui, fin du suspense. Après la Roumanie, après la Moldavie, Emmanuel Macron va poursuivre sa tournée en Europe de l'Est. Il se rendra bien demain en Ukraine. Plusieurs sources sécuritaires et politiques nous le confirment. Le président français est attendu demain après-midi à Kiev. Il doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un déplacement que le locataire de l'Élysée n'effectuera pas seul. Il sera accompagné du chancelier allemand Olaf Scholz et de Mario Draghi, le chef du gouvernement italien. Une visite hors norme dans un pays en guerre, et alors que l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine est fermé. En termes de logistique, le président devrait donc s'y rendre soit en train, soit en voiture.
C'est donc la première fois qu'Emmanuel Macron se rend en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Tout cela entre les deux tours des élections législatives et après la séquence d'Orly, où on a vu le chef de l'État lancer un appel aux électeurs pour lui donner dimanche une majorité solide. Panique, ont aussitôt traduit Jean-Luc Mélenchon et la NUPES, qui pourraient priver le camp présidentiel d'une majorité absolue à l'Assemblée. Une autre épine dans le pied du gouvernement dans cet entre-deux-tours, l'affaire Damien Abad, le ministre des Solidarités, visé par une nouvelle accusation de tentative de viol. Une élue centriste témoigne auprès de Mediapart. Les faits imputés remontent à 2010. Damien Abad dément, mais aujourd'hui, c'est Elisabeth Borne qui s'est retrouvée aux prises avec ses accusations. La première ministre était en campagne dans le Calvados, où elle est candidate aux législatives. Arthur Delaborde, cette affaire Damien Abad empoisonne la Macronie.
Oui, elle empêche le camp présidentiel de faire campagne avec sérénité. La semaine dernière, déjà, Emmanuel Macron avait été interpellé par une lycéenne, vidéo devenue virale, partagée des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Et ce matin, c'est donc Elisabeth Borne qui a été alpaguée sur le marché de Villers-Bocage.
Je dis vraiment aux femmes, et je le dis en tant que première ministre et en tant que femme, que je les invite à déposer plainte. Parce que c'est important que la justice puisse dire les faits.
Qu'un homme utilise sa stature d'homme de pouvoir pour avoir des faveurs, ça vous dérange pas?
Bien sûr que ça me dérange.
Mais et bien pourquoi sûr. Il est encore là?
Attendez,
pourquoi
mais bien, attendez, madame. C'est pas moi qui. Moi, je suis pas juge, vous savez. Je suis pas juge.
Elisabeth Borne, interpellée par une riveraine militante au sein de la NUPES, l'exécutif, en tout cas, reste sur la même ligne, à savoir respecter la gravité des accusations tout en rappelant le principe de la présomption d'innocence et donc ne pas se substituer à la justice. Le cas Damien Abad, qui devrait continuer à embarrasser la Macronie, puisqu'il est bien parti pour être réélu dimanche. Certains poids lourds de la majorité réclament d'ailleurs que le ministre se mette de lui-même en retrait pour assurer sa défense. Mais cela ne semble pas être l'option retenue par l'intéressé qui balaie les accusations et dénonce un acharnement politique.
Arthur Delaborde, à 4 jours du second tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon appelle le camp présidentiel à baisser d'un ton et à accepter d'être interpellé. Le leader de la NUPES s'inquiète des glissements de vocabulaire qu'il dit avoir observés chez ses opposants et qui sous-entendraient que l'alliance de la gauche serait l'ennemi de la République. Cette fois, nous y sommes. On ne parle plus de beau temps. Il s'est effacé, le beau temps. Derrière la canicule, 23 départements de l'Ouest et du Sud-Ouest placés en vigilance orange. On y reviendra en détail avec la météo de Marlène Duret. On va se rapprocher des 40 à l'ombre à mesure qu'on va se rapprocher de la fin de la semaine. Le mercure grimpe en particulier à Bordeaux, Stéphane Place. Les Bordelais ne pensent plus qu'à une chose, s'abriter des rayons du soleil.
Oui, un soleil puissant qui vous colle toute la journée un masque de chaleur sur le visage. Fatigant, reconnaît Paul, 20 ans, étudiant.
Tout le monde prend cher, tout le monde. Les personnes âgées sont très sensibles, en effet, mais les jeunes sont aussi touchés, tout le monde est touché. Il n'y a pas de secret, boire de l'eau fraîche.
Et pour Jordan et Loïc, menuisier en sueur, ce fut une journée particulièrement éreintante.
On est vraiment à plat, ouais. Moi, je suis vachement aigri quand je suis très très fatigué. Avec cette chaleur, je peux très vite monter en pression, être très vite énervé pour un oui ou pour un non. Faut prendre sur soi, c'est tout.
C'est plus un soleil de plomb, surtout vendredi. Ils annoncent 41, 6h on va commencer. Comme ça, on pourra finir à 14h30 pour pas avoir à subir le pic de chaleur.
40 voire 41 annoncé ici vendredi. Anne, grand-mère, s'interroge sur l'impact de cette chaleur sur notre santé physique et nerveuse.
Savoir comment nos corps, nos organismes vont tenir le coup par rapport à ce réchauffement global, quoi. Et je pense que nos corps vont s'adapter, mais il y aura des dégâts, je pense, dans les personnes âgées, les bébés, etc. Certainement de l'agacement, de la fatigue, moins d'énergie. On n'a qu'une idée, c'est pour ça que je vais vous quitter, c'est d'aller se mettre au frais, plus au frais possible.
Et cette nuit ici à Bordeaux, beaucoup vont avoir du mal à trouver le sommeil.
Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. Et oui, c'est l'un des aspects de la canicule. La température ne redescend pas suffisamment la nuit. Sans surprise, et on commence à en avoir l'habitude, le ventilateur s'invite tout en haut de la liste de courses. En tout cas, si vous n'en avez pas déjà un, vous l'avez vérifié, Victor Pourcher, dans un magasin d'électroménager parisien. La plupart des clients aujourd'hui cherchaient un ventilo.
Oui, c'était les grandes stars aujourd'hui aux yeux des clients. Et pour Sonia, ça devenait urgent.
J'ai un grand appartement, mais comme je suis exposée au plein soleil, le soir, il fait très chaud, on a besoin des ventilos. Et en plus, ça fait un moment que je n'ai pas acheté. Les deux que j'avais, ils sont tombés en panne, donc je viens prendre deux.
Alors comptez entre 30 euros pour l'entrée de gamme et jusqu'à 500 euros si vous allez jusqu'au climatiseur. Océane, elle, a fait son choix.
Un ventilateur colonne, pas ceux qui prennent la poussière là avec les grosses hélices en colonne, ce serait l'idéal. Le ventilateur là, c'est nécessaire, surtout qu'apparemment ça dure toute la semaine et l'été n'est pas terminé, donc c'est essentiel.
La vague de chaleur est soudaine, mais anticipée par les enseignes, comme l'explique Saïda, vendeuse dans ce magasin d'électroménager.
On a un bon directeur qui a anticipé, on va dire, la vague de chaleur. Donc du coup, la commande des ventilos a été faite quelques semaines en amont. Oui. Oui, on a eu beaucoup de monde ce matin. L'après-midi, entre midi et deux, ils viennent pour leur bureau aussi. Enfin voilà, c'est tout au long de la journée.
Et cette ruée se confirme dans les chiffres de vente. Dans un magasin voisin, ils ont été multipliés par 20 en une semaine.
Victor Pourcher, 4 noyades en 2 jours sur les plages des Alpes-Maritimes. Le préfet lance un appel à la plus grande prudence à l'approche de ces journées de forte chaleur. Les 4 victimes sont des baigneurs âgés de 61 à 84 ans. Ils ont tous succombé à des accidents cardiovasculaires. Les autorités sanitaires insistent une nouvelle fois sur les gestes de bon sens qui ne vont pas toujours de soi pour se protéger au mieux de la chaleur. Sandrine Randriamam-Pianina de Santé publique France.
Comme pour chaque épisode de canicule, les gestes de prévention sont les mêmes. Le premier, c'est qu'il faut boire de l'eau très régulièrement, même si on n'a pas soif. Rester au frais, donc ça implique d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Maintenir son logement au frais en fermant les fenêtres et les volets dans la journée. Et si c'est impossible, aller dans un endroit frais. Le troisième conseil qu'on donne, c'est d'éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes ou d'éviter de travailler à l'extérieur. Ces mesures sont prioritaires, d'autant plus que l'épisode qui est sur le point de démarrer est précoce et que par conséquent, les organismes ne sont pas encore adaptés ou ne sont pas encore habitués à la chaleur.
Les conseils de Santé publique France pour traverser au mieux cette période de canicule. Pas de couac pour le bac. Selon Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, les épreuves du baccalauréat vont se dérouler normalement, malgré la chaleur. Aucun signalement inquiétant dans cette canicule qui démarre. Demain, c'est au tour des élèves de première. Ils ont rendez-vous avec l'écrit de français. Et à midi, déjà, on a entendu des oufs de soulagement. C'était les terminales qui sortaient de la philo, Louis Salé. Vous avez rencontré des candidats au lycée François Villon à Paris. Ils avaient le choix entre un commentaire de texte et la fameuse redoutable disserte.
Oui, parmi les deux dissertations proposées, il y avait la question « Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ?» Anna a choisi de traiter ce sujet de façon assez personnelle.
J'ai dit que plus on a de l'expérience et plus on découvre ce qui nous paraît juste ou bien injuste. J'ai parlé d'un médecin, par exemple, qui va lui paraître juste, ça sera de sauver ou bien de soigner certains patients. Et je pense que c'est en fonction des différentes expériences de chacun et différents environnements aussi qui nous entourent qui vont faire en sorte que les choses qui nous paraissent justes vont plus se montrer.
Pour l'explication du texte, Anis n'a pas rencontré de difficultés particulières. Il a commenté l'essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique d'Antoine Augustin Cournot.
En vrai, le texte, il était assez simple. Enfin, il y avait des termes plutôt facile, du coup il était assez compréhensible. Du coup, en plus, il traitait du sujet de la vérité. La vérité, je trouve que c'est l'un des sujets les plus faciles en philosophie.
L'épreuve est derrière eux, mais attention, il reste encore le grand oral. Les sessions commenceront dès lundi.
Allez, bon courage à toutes et à tous les candidats. Louis Salé.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Nous sommes maintenant à Évry, dans l'Essonne. Le tribunal correctionnel a rendu aujourd'hui ses réquisitions au procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny, qui avait fait 7 morts et des centaines de blessés en 2013. La peine maximale a été demandée contre la SNCF, 450 000 euros d'amende. Au contraire, Gladys Laffitte, c'est la relax qui a été requise pour SNCF Réseau et pour un ancien cheminot, le dernier à avoir inspecté les lignes avant le drame.
Eh oui, le procureur considère que l'ex-cheminot a commis des fautes disciplinaires mais pas pénales, des fautes pas juridiquement établies non plus pour SNCF Réseau, ex-RFF Réseau Ferré de France. De relax donc demandé, ce qui est loin de satisfaire les parties civiles. Certaines ont même quitté la salle. Jean-Luc Marissal a été blessé dans l'accident.
Déçu et pas acceptable à ce stade que RFF ne soit pas reconnu coupable. Ils ont une part de responsabilité, certes un degré moins de la SNCF, mais les deux parties étaient, je dirais, intervenants principaux dans les manquements au niveau de la maintenance.
La seule responsable pour le procureur, c'est donc la SNCF, coupable d'avoir créé le contexte d'un accident causé par la défaillance dans la réalisation de la maintenance, dit le magistrat. Les cheminots se sont retrouvés contraints de travailler dans des conditions dégradées, explique-t-il, à cause de la faute originelle, organisationnelle, le choix délibéré de privilégier le rendement à la sécurité, selon ses mots. La politique des ressources humaines inadéquates à Brétigny ou encore la vétusté des installations forment un système qui ne se remet pas en cause. Une entreprise dans le déni, fustige le procureur, qui requiert donc la peine maximale, une amende de 450 000 euros.
Et Gladys Laffitte au tribunal correctionnel d'Évry pour Europe 1. Le gouvernement est-il en train de mettre EDF à genoux? Des représentants syndicaux sonnent l'alarme. EDF ne passera pas l'année, préviennent-ils, à cause du bouclier tarifaire mis en place jusqu'à la fin de l'année pour adoucir les factures des Français. Pour Philippe Page, le Mérour, secrétaire du comité social et économique central d'EDF, eh bien, il faut revoir entièrement le système de calcul des prix de l'énergie.
Si on reproduit les dispositions qui ont été prises il y a quelques mois, c'est-à-dire demandant à EDF de fournir davantage de volume d'énergie à ses concurrents pour les vendre, on flingue EDF, je n'ai pas d'autre terme, et on arrive à une situation où on sera au-delà de 70 milliards de dettes, peut-être à 80 à la fin de l'année 2022. Et donc, pour certains, évidemment, ça serait la belle aubaine de dire « Ah, ben, EDF est en difficulté, on a une solution, on va la nationaliser pendant trois quarts d'heure, comme propose actuellement les ministres, et puis, dans le quart d'heure suivant, on va la découper en morceaux pour offrir ses activités les plus rentables à des actionnaires privés, autrement dit, la mort de l'entreprise publique EDF. »
Philippe Page, le Mérour, avec Maud Descamps. En finir pour de bon avec le Covid, des experts américains se prononcent pour l'autorisation du vaccin Moderna chez les tout-petits. On parle cette fois des enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Le feu vert aux États-Unis est quasiment certain. Les premières injections pourraient commencer dès la semaine prochaine. On vous parlait hier soir sur Europe 1 de ce séisme dans le foot français. Les Girondins de Bordeaux rétrogradés en National, la 3e division, sanction du gendarme financier du foot en raison d'un trou béant dans les caisses du club. Les Girondins ont fait appel de cette décision. Pour les supporters, en tout cas, c'est la série noire après déjà une première relégation sportive de leur club en Ligue 2.
C'est sûr que ça fait mal aux tripes parce qu'on avait quand même une bonne équipe, on était contents. Moi, je me suis vu aller au stade à pied pour les voir, tout ça, avec le casse-croûte et tout ça auparavant. Et là, on n'a plus d'envie, dégoûté.
C'est une claque, ça va plus être le grand FCGB. J'ai peur aussi de pas mal d'emplois qui vont sauter, quoi.
Vous avez l'espoir qu'il va y avoir de l'argent?
Ben oui, ils vont trouver une solution, ben bien sûr. 25 millions, c'est 20 ou 25 millions, mais ils vont se démerder à trouver ça. Il faut arrêter de cracher. Quand tu gagnes, tout le monde est là. Quand tu perds, ben voilà. Pas supporter pour de rond.
L'été approche et les places dans les trains pourraient bien se faire rares. À la fin du mois, la SNCF va mettre en place une liste d'attente pour quand même tenter sa chance sur les trains Ouigo qui afficheraient complet. Vous pourrez ainsi récupérer le siège d'un voyageur qui a finalement laissé filer sa réservation. On estime que 10% des voyageurs ne montent pas dans le train pour lequel ils ont acheté un billet. Le temps pour demain, jeudi, Marlène Duret, il fait trop chaud pour travailler. Hein. En tout cas, très chaud. On a 23 départements ce soir qui sont placés en alerte canicule.
Absolument, Alexandre. On les rappelle, Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, tous ceux du Poitou-Charentes, de l'Aquitaine et du Midi-Pyrénées, sans oublier la Drôme et l'Ardèche. Les températures sont en hausse, évidemment, demain, les mini comme les maxi. Les seuils de canicule sont atteints. Et je le disais tout à l'heure, le critère de la durée joue aussi, au moins 3 jours consécutif, on est bon. Alors demain après-midi, température qui monte d'un cran sur la moitié sud. On va dépasser généralement les 35 degrés avec 38 à Bordeaux, Toulouse, quelques pointes à 40 du côté de Nîmes, hein, sans doute. Sur la moitié nord, une moyenne globale de 30 degrés avec 31 à Paris, 33 à Mulhouse, 34 à Bourges, Tours, 35 à Nantes, mais alors on va dire seulement 28 à Lille ou 24 au Havre, d'où la moyenne des 30 degrés. Et cette chaleur va se renforcer vendredi pour atteindre son pic samedi. Quasiment toutes les régions seront concernés par des 35 à 39 degrés. La fraîcheur, dans une certaine mesure, ira se réfugier vers les côtes de la Manche, la Côte d'Azur et la Corse. Et l'air chaud bien installé va propulser donc ces températures vers des niveaux tellement élevés qu'on devrait battre des records mensuels de température, vendredi ou samedi en tout cas. Et cette canicule pourrait concurrencer la vague de chaleur de la fin du mois de juin de 2019. Avec les orages, on va commencer à respirer dimanche sur la partie ouest, mais à l'est et notamment en plaine d'Alsace, il fera encore très chaud jusqu'à mardi a priori. Ça c'est pour les températures. Du côté du ciel, c'est très simple pour demain.
Oui, j'imagine.
Généralement ensoleillé. Alors on a quand même le ciel qui se voile par l'Atlantique et ce voile de nuages élevés va s'étendre l'après-midi jusqu'à la Normandie, jusqu'à la Touraine, au Limousin et au Midi toulousain.
Merci Marlène Duret. On ne dit pas il fait beau et chaud, il fait juste chaud et chaud.
Oui.
Demain, voilà, c'est très simple.
Si
dans un court instant, sur Europe 1, Top à Wall Street avec Didier Hamon et puis notre invité politique, Éléonore Baize, candidate RN dans les Bouches-du-Rhône. A tout de suite.
Renault, aujourd'hui.
Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Top à Wall Street avec Didier Hamon de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui rebondit ce soir après les annonces de la Banque Centrale Américaine, la Fed, qui a haussé le ton pour lutter contre l'inflation.
Ah oui, la Réserve fédérale tape du poing sur la table pour tenter de reprendre le contrôle de l'inflation qui dérape, qui galope. La Fed a remonté ses taux de 0,75 points ce soir, une grande première depuis 1994, donc une hausse de 0,75 points, c'est beaucoup plus que prévu initialement, même si le marché s'était un petit peu adapté au cours des dernières séances. La Banque centrale, qui prépare d'ailleurs les esprits, à une autre hausse des taux fin juillet, sans doute de la même ampleur. Alors ça plaît plutôt au marché, donc le Dow Jones remonte d'1%, 30 668 points, le Nasdaq grimpe même de 2,5%, 11 099 points, ce sont surtout les valeurs de technologie qui sont les plus réactives, hein, comme d'habitude, Apple plus 2%, Apple est à $135,38, on a des hausses assez nettes sur Microsoft, plus 3%, sur Facebook, plus 3,5%, Tesla gagne même plus de 5% et remonte à $698,67. Belle hausse aussi de Google, pratiquement 3% de hausse. Les banques aussi, logiquement, remontent. Goldman, plus 2,5%. Morgan Stanley, plus 1,4%. Citigroup, plus 3,5%. Le pétrole, en revanche, marque une pause. On revient vers les $116 le baril américain. L'euro reste assez faible, toujours autour des 1,0450 face au dollar.
La Bourse de Paris redémarre, elle aussi, ce qui met fin d'ailleurs à une série de 6 séances consécutives de baisse.
Ça y est, oui, c'est reparti. En hausse, c'est un rebond, hein, en hausse d'1,35%, de retour au-dessus des 6000 points, 6030 points. Après, effectivement, 6 séances de baisse consécutives et 9% de perdu quand même. Le rebond s'est concentré sur les valeurs qui avaient le plus baissé récemment, à commencer par le secteur automobile. On a Faurecia, plus 5% avec Valeo, plus 4,5%, Renault, plus 5% à 25,39€. Stellantis remonte de 3%, 12,82€. Puis les banques aussi se reprennent. Société Générale, Crédit Agricole, BNP en hausse de 2 à 3%. L'assureur AXA aussi regagne 3% à 23€.
Exception du jour, Didier, c'est Atos qui continue de s'enfoncer.
Encore toujours en baisse, Atos recule de nouveau de 5%, 13,66€, après une chute vertigineuse hier de 23%, après l'annonce du plan d'action du groupe informatique qui passe par une scission en deux entités, ce qui n'a visiblement pas convaincu les analystes. Ce plan s'accompagne du départ du directeur général, hein, ça n'a pas rassuré les marchés, loin de là. Atos perd plus de 55% depuis le début de l'année. Ce soir, le titre perd donc 5%, 13,66€. Les autres places financières rebondissent aussi de concert. Le DAX à Francfort, plus 1,3%, Bruxelles, plus 2%, Madrid, plus 1,4%, Milan, plus 1,8%, et le CAC 40, plus 1,35%, 6030 points.
Merci Didier Hamot. La voici, cette petite pause à 22h19 sur Europe 1, avant de retrouver dans un très court instant Éléonore Bèze, notre invitée politique. Elle est candidate Rassemblement National dans les Bouches-du-Rhône. A tout de suite.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
L'invité politique à 22h20 sur Europe 1. Nous sommes à 4 jours maintenant du second tour des élections législatives. Bonsoir Éléonore Bèze.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère municipale et régionale à Marseille sous l'étiquette Rassemblement National et vous êtes également candidate aux législatives dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône. Emmanuel Macron, on le voit, hein, en pleine tournée diplomatique en Europe de l'Est, la Roumanie hier, la Moldavie ce mercredi et puis on apprend, ce sont les informations sur Europe 1, que Emmanuel Macron se rendra bien à Kiev demain, la capitale de l'Ukraine en guerre. C'est une première hein, pour le chef de l'État depuis l'invasion russe. C'est important, tous ces gestes de soutien de la part du président Éléonore Bèze.
Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, le souci, c'est qu'on est en pleine élection législative nationale. On a un petit peu l'impression d'une fuite du président de la République, alors qu'il devrait se trouver auprès de la France, à l'aube, justement, après son élection, et à l'aube de la constitution d'une nouvelle Assemblée, d'un nouveau Parlement, issu du peuple. Donc c'est qu'il aille soutenir l'Ukraine. Bon, est-ce que ça va servir à grand chose? Ça fait 111 jours déjà de conflit et qu'il est en contact régulièrement avec la Russie. Ça me paraît quand même un petit peu étonnant et ça me paraît d'autant plus étonnant qu'on a l'impression qu'il fuit un scrutin qui ne va pas forcément lui donner la majorité à l'Assemblée.
On a le sentiment ici que Jean-Luc Mélenchon vous rejoint. Il a vu du mépris pour les Français justement dans ce déplacement du président à l'étranger entre les deux tours. Réponse d'Emmanuel Macron à la NUPES, c'est pas du mépris que de rendre visite à nos soldats, répond le chef de l'État. Vous partagez son point de vue ?
Écoutez, moi, le point de vue de M. Mélenchon qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron, c'est toujours un petit peu, c'est toujours cocasse quand même quand on a donné ses voix au président de la République.
Alors, il n'a pas appelé à voter Emmanuel Macron, il a appelé à ne pas donner de voix à l'extrême droite.
Oui,
c'est un peu différent.
C'est tout de même, ça se rapproche terriblement. Et en gros, le résultat final, il est celui-ci. Mais oui, il y a effectivement il y a du mépris. Mais il y a toujours eu du mépris de la part d'Emmanuel Macron à l'égard des Français. Il y en a toujours eu, c'est pas la première fois. À la limite, ça ne surprend même plus. Voilà, qu'il s'en aille encore une fois à 4 jours d'une échéance majeure et de l'échéance d'ailleurs qui est celle, d'ailleurs, c'est très symbolique parce que le Parlement, c'est la voix du peuple français. L'Assemblée nationale, ce sont les députés de la nation, c'est la voix du peuple. C'est la voix de chaque circonscription. Donc on a vraiment l'impression, eh bien, qu'il s'en va, voilà, il s'en va faire sa tournée en période de guerre, on ne sait pas si ça va servir à grand-chose. Encore une fois, oui, il y a ce sentiment toujours de mépris à l'égard des Français.
Marine Le Pen est revenue sur cette séquence de l'aéroport d'Orly, quand on a vu Emmanuel Macron lancer cet appel à lui donner dimanche prochain une majorité solide. C'est la crainte que la NUPES le prive d'une majorité absolue dans la nouvelle Assemblée. Marine Le Pen, elle juge cette déclaration complètement inappropriée. Qu'est-ce qui vous dérange en fait? Est-ce que c'est le timing? Est-ce que c'est le choix de la mise en scène d'Emmanuel Macron?
Et c'est tout, en fait, je veux dire, on a l'impression d'une sorte de mauvais Indiana Jones qui s'en va à l'aventure en disant, voilà, il faut voter pour moi, il faut me donner une majorité, au fait, et puis, je m'en vais. Et non, enfin, je veux dire, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment un manque de respect vis-à-vis des Français. On fait pas ça entre deux portes. Voilà, on a vraiment l'impression qu'il fait ça entre deux portes. Donc, c'est catastrophique comme image.
La NUPES voit de la panique, voit un président qui perd ses nerfs dans toute cette séquence. Il y a de la fébrilité dans cette stratégie choisie par Emmanuel Macron entre les deux tours des législatives, Éléonore Bèze ?
Il est inquiet, bien sûr. Il sait bien. 67% des Français ne veulent pas qu'il ait la majorité. Donc il voit qu'il est quand même... sa cote s'est effritée à la fois et pendant les présidentielles, et ça s'est confirmé aux élections législatives, hein, puisque toutes les voix pour Emmanuel Macron se sont largement érodées. Donc il est en baisse. C'est bien que là, c'est son dernier mandat.
Au Rassemblement National, on a l'impression que vous avez du mal à exister hein, quand même dans ce débat public avec ce duel à distance qu'on voit s'installer entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Bah, vous êtes un peu pris entre les deux feux, le camp présidentiel et la NUPES.
Non, on est en pleine augmentation, au contraire. On est en pleine augmentation. Je vous dis encore une fois, le clan présidentiel et la NUPES, c'est pareil. C'est la même chose, c'est les deux faces d'une même médaille. Voilà. Tandis que, au fond, déjà, il a déjà donné des signes à la NUPES, il a donné le gage de M. Papendiaye. Bon, il y a beaucoup de choses. Nous existons à part entière. On existe sans personne on a encore augmenté pendant les législatives. On est présent dans 208 circonscriptions.
Et vous en faites vous-même partie, d'ailleurs.
Moi, dans ma propre circonscription, absolument. Je veux dire, quand on a une hausse de 6 points, alors que la gauche n'a pas évolué depuis 5 ans, et que, en revanche, l'Emmanuel Macron et la Côte d'En Marche s'est effondrée, s'effondrent dans ma propre circonscription, et que Marine Le Pen, elle, c'est nos idées qui gagnent du terrain, qui progressent.
Quand Marine Le Pen espère au moins 100 députés RN dans la prochaine Assemblée, c'est une estimation très optimiste. Les projections, elles vous donnent une fourchette de 20 à 45 députés. Alors, ce qui serait déjà pour vous inédit à l'Assemblée, Elinor Baise.
Ah, mais ce serait historique. Mais si on table sur beaucoup de députés, c'est parce qu'on a justement énormément d'ambition, qu'il est possible qu'il y ait beaucoup de surprises dans les circonscriptions. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de duels très intéressants qui vont se passer et qu'il risque d'y avoir effectivement des surprises à très peu de voix près.
Comment vous comptez défendre vos idées dans la prochaine Assemblée alors qu'on voit déjà ces deux gros blocs, NUPES et camp présidentiel, se cristalliser?
Moi, je trouve qu'il y a plutôt maintenant, en fait, ces deux gros blocs vont se cristalliser en un seul.
Oui,
ça va finir. La majorité présidentielle ne pourra pas exister seule. C'est une coalition d'une multitude de partis. Tout ça, ça va finir en un seul groupe. Ça va finir avec l'extrême gauche. C'est la porte ouverte à l'extrême gauche. Et nous serons le bloc d'opposition, le bloc national, qui lui aussi va naturellement, s'opposer dans les années à venir, clairement, à ce bloc-là.
Vous regrettez de ne pas être parvenu à une union des droites?
L'union des droites, vous savez, c'est un vieux concept. Aujourd'hui, c'est plus un bloc patriote. L'union des droites, si vous l'entendez façon telle que ça a été annoncé par Éric Zemmour, c'est quelque chose de complètement dépassé, de complètement ringard.
Chez Éric Zemmour, ils ont ce regret, eux, effectivement, de n'avoir pas su trouver le chemin d'une alliance avec vous.
Oui, mais ils sont complètement plantés. Ils sont complètement plantés stratégiquement, ces ringards. Voilà, l'union des droites, telle comme ça, on n'est plus dans les années 70-80. Aujourd'hui, on est dans des blocs populaires. Il y a un bloc populaire, c'est le nôtre, un bloc populaire patriote, et il y a un bloc mondialiste et révolutionnaire. Et ça, c'est la réalité. Voilà.
Et dans ce
bloc populaire patriote, c'est aussi les droites qui se rejoignent, les personnes qui veulent, en fait, qui ont toutes la valeur de la France, des valeurs en commun qui vont se retrouver pour la France.
Vous craignez un front républicain contre les candidats du RN au second tour, Elinor Baise?
Là encore, je crois que c'est un petit peu dépassé, vous savez. Je ne sais pas si finalement les gens, ils vont certainement plus avoir envie d'aller voter contre la politique d'Emmanuel Macron, encore une fois. Mmh. Alors, le front républicain, ça s'est quand même largement, et ça s'effrite largement, encore une fois, au fil du temps. Ça ne prend plus vraiment. Voilà. Donc, les électeurs sont libres de leur choix. Et puis, non, moi, je ne crains pas particulièrement.
Merci Elinor Baise, conseillère régionale RN, candidate aux législatives dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône. On va se retrouver dans un tout petit instant sur Europe 1 pour découvrir ensemble les unes de la presse et pour votre rendez-vous avec la libre antenne d'Olivier Delacroix. A tout de suite.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
À la une de vos journaux, demain, la France écrasée de chaleur à la mi-juin. Et pendant ce temps, la planète brûle encore plus de pétrole, de gaz et de charbon. C'est la une de West France. 2021 a certes été une année record pour l'installation de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes, mais la demande en énergie augmente tellement qu'on continue de brûler toujours plus d'hydrocarbures et d'émettre toujours plus de dioxyde de carbone. La canicule également à la une d'aujourd'hui en France. Est-ce que 50 degrés à l'ombre en France, c'est possible? Je vous donne un petit spoiler dans les pages du Parisien. La réponse des chercheurs interrogés par Le Quotidien, c'est oui, avant la fin du siècle, on aura bien par endroits 50 voire 55 degrés à l'ombre en France, des températures extrêmes qu'on pourrait même connaître avant 2050, craint une climatologue. Tout le temps, le climat change vite. Les législatives à la une du Figaro, avec ces insoumis qui veulent faire trembler l'Assemblée, forte de sa dynamique électorale au premier tour, la NUPES s'apprête à débarquer en force dans l'hémicycle, écrit le Figaro, pour jouer le rôle de premier opposant. Une perspective qui inquiète déjà l'exécutif. Une majorité relative, c'est grave, docteur. Questions et explications de l'opinion. Derrière la dramatisation de la Macronie autour des législatives, il y a la crainte d'une opposition de gauche virulente dans l'hémicycle et dans la rue, plus que celle d'un blocage des institutions. 22h30, vous êtes sur Europe 1, et comme promis, c'est l'heure de la libre antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher.
Vous portez ce soir une belle chemise, mais vous me dites avoir un petit peu chaud en venant de dehors là.
Exactement. J'étais à une,
une fête de fin d'année d'une grande boîte de post-production, voyez-vous. Et c'est pour ça que vous me voyez en civil ce soir.
En civil. Parce que, d'accord, parce que d'habitude, vous portez l'uniforme, en fait, c'est ça?
Non, d'habitude, je suis à la cool pour cette libre antenne.
À la cool,
j'ai le survêtement de ma deuxième équipe de cœur, la Belgique.
Vous êtes un peu sur votre 31 ce soir.
Et ce soir, voilà, vous me voyez sur mon 31.
Ouais.
Comment vous me trouvez?
Très bien. Très bien. Et pour le coup, vous vous êtes refait une petite fraîcheur parce que
très
vous
n'avez
pas l'air si.
Mais non, mais on est bien ici. On est très bien ici. Il faisait très chaud dehors.
Il fait très bon dans Studio Coluche. On a cette chance.
Je suppose que là, on nous écoute dans beaucoup, partout en France. Vous savez, dans les jardins, les radios sont branchées.
Oui.
Et on est en train de faire frire un peu des merguez, des chipolatas.
Arrêtez, vous me faites envie.
Ouais. Et voilà. L'heure est au barbecue, cher ami.
Exactement.
Vous en faites des barbecues, vous?
Ah, mais régulièrement.
D'accord.
Je suis un professionnel du barbecue.
Ah ouais. Moi,
quelque chose que vous ignoriez encore.
Alors oui, je l'ignorais. Et moi, j'ai acheté un barbecue il y a 2 ans.
Ah oui.
Un Weber.
À gaz?
Un truc qui vraiment, qui est, vous appuyez sur un bouton et ça s'allume.
Ah ben voilà, c'est ça.
Parce qu'avant, quand il fallait que je fasse démarrer un barbecue.
Il n'y a pas besoin de sortir le zip.
C'était très compliqué.
Bon. Et du coup, ça va mieux maintenant.
Ça va beaucoup mieux.
Votre vie a changé.
Beaucoup mieux. Bon, non, mais comme je ne mange pas viande, c'est pour les autres, vous savez.
Ah oui, oui,
c'est
oui,
le plaisir d'offrir.
C'est votre altruisme.
Le plaisir d'offrir.
Naturel, plaisir d'offrir, exactement.
Bon, on vous retrouve à 23h pour de bonnes nouvelles. Hein.
Bah, j'espère.
Vous nous promettez.
Pas que, mais en partie.
Bon,
allez, on va
aller,
on va
à tout à l'heure.